Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale qui me tient très à cœur. Je vais te raconter quelque chose que seulement mes amis très proches savent sur moi et mon histoire. Mon prénom, Yasmine, n'est pas du tout un prénom français. Ma mère et ma grand-mère sont nées en Algérie, en Afrique du Nord. Leur langue maternelle est l'arabe et quand elles sont nées en Algérie, ce pays était une colonie française et donc par définition, elles sont françaises. Elles habitaient au fin fond de la Kabylie à Kadiria et il faut savoir qu'en Algérie, comme dans toutes les colonies, il y avait les Français qui habitaient là-bas depuis plusieurs générations. Pour les Français qui habitaient là-bas en Algérie, on les appelait les pieds noirs. Et il y avait les Algériens qui faisaient partie de l'élite et il y avait les autres que les colonisateurs se gardaient bien de scolariser. Eh bien non, il ne fallait pas trop instruire les colonisés. Ma grand-mère et ma mère faisaient partie du troisième groupe. Comme je suis blanche de peau avec les yeux bleus, on me demande souvent si ma famille est pieds noirs, mais non, ma famille est bien arabe-arabe. Pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, ma grand-mère et ma mère ont quitté leur paradis et se sont réfugiées en France, en métropole. Et elles ont tout perdu. Elles ont été victimes d'une guerre dont elles connaissaient absolument rien. Mon grand-père est mort face aux Français et à leur arrivée en France, ma mère et ma grand-mère, elles ne parlaient pas français. Elles n'ont jamais été scolarisées et elles habitaient à la campagne. Elles ignoraient absolument qu'elles étaient françaises. Tout ça, c'était très très loin pour elles. Ma mère a été scolarisée en français dès leur arrivée en France métropole et c'était la première personne de leur famille à aller à l'école, donc la première génération scolarisée. Cela a aussi créé une grosse pression sur elle car c'était la seule qui pouvait vraiment communiquer et comprendre parfaitement le français. Elle devait être souvent l'interprète. De son côté, ma grand-mère a trouvé un travail dans une usine de textile, comme dans la plupart des usines dans le nord de la France, très rapidement, sauf que le français, la maîtrise du français, n'était pas un impératif. J'adorais ma grand-mère, et même si son français n'était pas très bon, on a toujours réussi à communiquer. En 2015, j'habitais à Bruxelles et je donnais des cours de français langue étrangère. La Belgique a connu une grosse crise migratoire et beaucoup de réfugiés se sont rassemblés dans le centre de Bruxelles, dans le parc Maximilien. Connaissant les difficultés que ma mère et ma grand-mère ont rencontrées quand elles sont arrivées en France, je voulais absolument aider ces personnes avec mes petits moyens. Je suis donc allée dans le parc Maximilien, dans le centre de Bruxelles, entre deux cours particuliers, j'ai rencontré des bénévoles et je leur ai dit que j'étais disponible et que je voulais donner des cours de français de manière bénévole à des réfugiés. De fil en aiguille, ce projet s'est concrétisé. Le groupe de bénévoles ont appelé ce projet la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés et en fonction de mes disponibilités, j'ai essayé de donner le plus d'heures de cours de français possible à des femmes qui venaient d'arriver à Bruxelles et qui étaient totalement perdues et qui avaient aussi tout perdu. Parmi les bénévoles, j'ai aussi rencontré Nathalie Dupont, mon invitée dans cet épisode aujourd'hui. Nathalie est professeure de français et elle a créé avec d'autres professeurs une école de langue au sein de la plateforme et cette école s'appelle l'école Maximilien. Nathalie est encore bénévole aujourd'hui dans la plateforme et en 2016, j'ai quitté Bruxelles pour aller à Paris et je ne pouvais plus aider la plateforme à distance. Aujourd'hui, la plateforme et l'école existent encore et toujours. Ils ont grandi et l'école accueille entre 75 ou 75 et 100 élèves dans les cours de langue. Alors, je voulais inviter Nathalie depuis longtemps dans le podcast car son travail est admirable et mérite d'avoir plus de visibilité. Donc cette interview me tient à cœur, comme je l'ai dit au tout début, car en France aujourd'hui, le gouvernement essaye de passer des lois contre l'immigration. C'est un peu du n'importe quoi. Et si tu veux mon avis, je serai toujours pour la migration, l'immigration, les réfugiés. Personne ne quitte le paradis, personne ne quitte sa maison sans rien pour vivre dans une terre inconnue pour le plaisir. Alors même si ma mère est née en Algérie française, si l'immigration n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui en train de t'enseigner le français. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Cette semaine, mon invitée, c'est Nathalie Dupont. Salut Nathalie.
Bonjour Yasmine.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien. Je suis très heureuse de te retrouver. On s'est déjà croisé à la plateforme citoyenne et c'était un plaisir.
Ça fait un petit moment que je veux t'avoir dans le podcast. Je te connais évidemment, mais j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui te connaissent pas encore.
Alors voilà, mon nom c'est donc Nathalie Dupont et je suis professeure de formation. De formation, j'ai suivi donc à l'ULB une formation de professeur de langue étrangère, néerlandais, anglais, mais actuellement, ce que j'enseigne le plus souvent, c'est le français. Le français, donc, à destination des demandeurs d'asile de la plateforme citoyenne de Bruxelles.
Ok, donc nous sommes en Belgique, pays qui est très cher pour moi, évidemment.
J'entends.
Et il y a quelques années, je me souviens, je suis allée, c'était sur le parc Maximilien, je pense. Oui. Et j'avais rencontré des bénévoles de la plateforme citoyenne parce que je voulais donner des cours de français. Et il y avait énormément de personnes réfugiées qui arrivaient à Bruxelles, qui étaient complètement dans le désarroi. Et je voulais absolument aider. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, qu'on a été en contact au sein de la plateforme. Comment vous avez créé donc cette école?
Alors, si tu te souviens, en 2015, la Belgique a connu quand même une grande crise de l'accueil. De l'accueil des demandeurs d'asile qui se sont présentés à Bruxelles et qui se sont rassemblés dans le parc Maximilien, pas très loin de l'Office des étrangers. Donc, c'était un mois de septembre un peu froid, un peu pluvieux, et toutes ces personnes étaient effectivement très démunies parce qu'elles n'avaient pas un accès à la structure d'accueil de FEDASIL. FEDASIL étant l'organisme belge qui doit accueillir, offrir une chambre, un toit, un lit, un repas à chaque demandeur d'asile en Belgique. Donc toutes ces personnes étaient regroupées dans le parc Maximilien et les photos, les médias ont relayé la problématique et un mouvement citoyen est né. Très spontanément, je dois dire, beaucoup de citoyens se sont dirigés vers le parc, comme toi, pour aller à la rencontre de ces personnes et leur apporter un peu de confort, d'information. C'est comme ça qu'on a commencé dans le parc Maximilien de Forêt.
Et ensuite, du parc, vous avez déménagé dans un bâtiment. Comment ça s'est passé?
Le rassemblement dans le parc Maximilien de Bruxelles, pas en forêt, pardon, a duré un mois, le mois de septembre, et puis nous avons pu être hébergés dans un hangar le long du canal de l'Isère. Là, c'était un hangar très sombre, très froid, sans lumière naturelle et sans grand confort, je dois dire, mais c'est quand même là que des petites initiatives se sont mises en place, des services ont vu le jour, comme par exemple se rassembler dans un point commun, ou bien trouver là des services, des vêtements et même des cours de français essentiellement. Il y avait à l'époque deux classes seulement, une pour les enfants et une pour les adultes. Voilà, c'est l'origine de cette ASBL, Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés.
Génial. Et pour les cours de français, donc c'est essentiellement de français, il y a aussi des cours de néerlandais?
Oui, maintenant, nous avons, avec le temps, depuis 2015, on a pu élargir notre offre de cours. Et maintenant, l'approche a changé. Nous nous adressons essentiellement aux adultes, les enfants étant désormais pris en charge par l'enseignement officiel, vu qu'ils sont sous obligation scolaire chez nous. Alors, pour les adultes, nous avons commencé avec le français, mais on a vite compris qu'il fallait élargir l'éventail et on a pu ajouter de l'anglais, qui est déjà un peu parlé par les personnes en situation de migration, et aussi le néerlandais, parce que c'est aussi une langue nationale en Belgique et qu'elle est, bien sûr, demandée par toutes les personnes qui nous contactent.
Et les personnes qui suivent les cours, elles doivent donner des documents particuliers ou n'importe qui peut s'inscrire ?
Non, non. Chez nous, on est plus favorable à l'accueil inconditionnel. Donc, on ne va pas commencer à examiner la situation administrative de chaque personne qui souhaite suivre un cours de français, de néerlandais ou d'anglais. Et pour avoir un peu plus d'ailleurs de mixité, on accueille aussi les personnes sans papier qui logent ou qui résident autour de l'école. Notre école est actuellement située à Forêt, toujours à Bruxelles. Donc, essentiellement, nous accueillons des demandeurs d'asile. Ils ont donc une annexe 26. C'est le document officiel qui leur permet d'obtenir un numéro de registre national en Belgique. Et nous accueillons aussi les personnes qui ont d'autres profils, par exemple des personnes qui viennent du SAMU social, donc qui n'ont peut-être pas de logement pour le moment, ou des personnes qui ont un dossier un peu plus compliqué et qui résident en Belgique pour des raisons humanitaires ou pour des raisons médicales. Voilà, c'est le profil des apprenants que nous accueillons, donc du lundi au vendredi, 2 heures de français, aussi 2 heures de néerlandais ou d'anglais. Le choix est possible et tous les cours sont offerts par des professeurs bénévoles, ce qui est quand même assez magnifique.
Magnifique. Et justement, les professeurs, parlons-en. Est-ce que vous cherchez des bénévoles en ce moment ?
Bien sûr, nous sommes toujours très demandeurs de rencontrer des bénévoles parce que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et nous avons donc un panel d'activités à proposer aux bénévoles, soit dans la plateforme citoyenne, dans des services de distribution d'aide alimentaire ou vestimentaire, soit à l'école plus précisément pour donner cours à nos apprenants. Donc, chaque jour chez nous, 7 classes ouvrent leurs portes. Il y a donc 7 professeurs bénévoles et c'est ainsi du lundi au vendredi. L'équipe est déjà bien rodée, mais elle est toujours prête à accueillir de nouveaux bénévoles, surtout par exemple pendant les vacances scolaires quand nos professeurs sont eux-mêmes en congé.
Et il y a combien d'élèves en ce moment oui. Bon, j'imagine qu'il y a une rotation,
oui.
Hein, mais...
Oui, bien sûr. Il y a une rotation qui est nécessaire et qui est fort compréhensible, puisque les personnes que nous accueillons sont dans une situation temporaire. Il est possible qu'elles soient appelées d'un jour à l'autre par une structure d'accueil officielle. Et alors... hébergés en Flandre ou en Wallonie ou peut-être rester à Bruxelles. Donc, il y a énormément de rotations. Nos classes accueillent cependant quand même de 10 à 20 personnes chacune, l'essentiel étant l'enseignement du français de base, un français fonctionnel qui permet de se débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne, de se présenter, de trouver son chemin, de demander une information. Voilà, ce sont autant de défis pour des gens qui peut-être n'ont pas le même alphabet que nous, n'ont pas la même culture que nous et donc font face à énormément de difficultés. Mais il y a moyen d'y arriver et surtout quand on a une bonne équipe.
Oui, c'est hyper important aussi la formation des professeurs. Je me souviens que j'avais donné des cours à une femme qui parlait donc arabe, donc elle savait écrire en arabe forcément, mais qui n'avait aucune connaissance de l'alphabet français ou anglais. Et donc, je me suis retrouvée à donner un cours d'alphabétisation totalement improvisé.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
ça a été un très grand défi. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire ? Je ne sais pas du tout par où commencer.
Oui, c'est vrai. Ça illustre bien le fait que nous devons, comme professeurs, sortir de notre zone de confort. Professeurs, enseignants, formateurs, ben, il faut tous alors se faire tout petit et estimer ce qui serait la meilleure méthode pour justement faire de l'alphabétisation dans une langue étrangère pour ces personnes. Donc, c'est un double défi, c'est vrai, mais on voit que tout se met finalement en place et que chaque petite pièce de puzzle parvient à constituer, à la sortie du cours, un beau résultat, vraiment. Donc, quand les étudiants arrivent dans une école officielle, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, bien souvent, ils sautent une étape, disons. Ils peuvent déjà avancer avec plus de confiance, entrer dans un cours en sachant déjà s'exprimer avec un français minimum. Et ça, ça les met en confiance et ça leur donne un petit avantage. Donc, on peut peut-être estimer aussi, considérer que notre école a joué un rôle de tremplin tout à fait utile dans la formation de ces personnes. Donc, on parle d'un petit tremplin qui va les mener dans une autre école, un autre niveau, voire peut-être une autre langue, parce qu'on ne sait pas à l'avance dans quelle région de Belgique ils vont être orientés. Mais au moins, ils auront l'alphabet, ils auront les notions élémentaires de la langue qu'ils vont étudier ensuite. Voilà. Donc, tout ça, c'est très important pour eux. La présence au cours est aussi très importante parce qu'on voit que ça les amène à rencontrer d'autres gens qui vivent la même problématique qu'eux. Mm-hmm. C'est pas un problème très mince. Ils ont dû quitter leur pays, quitter leur confort et doivent se retrouver maintenant à construire quelque chose dans des conditions qu'ils ne maîtrisent pas et avec des codes qu'ils ne maîtrisent pas non plus. On voit aussi que la présence au cours rassure et qu'elle arrive à diminuer le stress et l'aide à oublier un petit peu la problématique qu'ils vivent dès qu'ils sortent de là, dès qu'ils se retrouvent en centre, dès qu'ils sont confrontés à une administration qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc, on voit que ça les met en confiance et que ça leur fait du bien, tout simplement. Ça leur fait du bien et c'est toujours un grand avantage et un grand plaisir de travailler avec eux.
En plus, bah oui, j'imagine qu'ils se font des amis, qu'il y a des liens qui se créent.
C'est ça, bien sûr.
Même avec les professeurs, pas uniquement entre les étudiants.
Oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Donc, il y a les cours en classe, mais il y a les petits moments conviviaux de partage, ne fût-ce que boire un verre, prendre un café ou faire encore une petite visite dans Bruxelles. Tout ça, ça crée du lien et ça crée du bien-être aussi dans une situation difficile pour eux, à ce moment-là de leur vie en tout cas.
Est-ce que tu as... une success story, une belle histoire à raconter. J'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué, dont tu es très contente et que tu aimerais partager avec nous?
Ben oui, le bonheur, c'est toujours quand on a consacré beaucoup de temps à quelqu'un et que cette personne arrive à rentrer dans une école ou arrive à terminer une formation professionnelle, puis à trouver un travail. Mmh. Un bonheur aussi, c'est de revoir les anciens qui nous expliquent ce qui leur est arrivé, le travail qu'ils ont trouvé, le logement qu'ils ont pu obtenir et tous ces petits pas qui font qu'on avance dans la vie. Et donc, bien sûr que je pourrais parler d'un tas de personnes parce qu'en fait, elles sont très fortes et elles sont vraiment très résilientes, très courageuses par rapport aux événements de la vie. Ils ne sont pas toujours joyeux pour tout le monde, voilà. Mais ensemble, on peut arranger un petit peu les choses et les voir un peu plus favorablement.
Et leur donner un sourire, leur montrer que ils sont les bienvenus, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur religion. La couleur de peau.
Oui, c'est ça, ou les papiers, parce que ça, c'est le gros souci de tout le monde, bien sûr. Mais non, en fait, on voit qu'ils ont les mêmes soucis que nous. Ils ont comme nous une famille, doivent s'occuper les uns des autres. Et voilà, c'est vraiment capital de pouvoir être ensemble dans des moments difficiles comme ça.
Est-ce que la situation en Belgique pour régulariser les personnes s'est améliorée depuis 2015? Parce que je me souviens qu'en 2015, c'était une catastrophe.
Oui, 2015, c'était une crise et
ils n'étaient pas prêts.
Non, c'est ça. Donc, il n'y avait pas eu suffisamment d'anticipation du nombre de personnes susceptibles d'avoir besoin d'aide, et ce, dans le contexte des guerres de Syrie, des guerres en Irak ou dans ces régions. Maintenant, nous sommes à nouveau confrontés à une nouvelle crise. On ne peut pas dire peut-être à nouveau que c'est une crise inattendue, je vais dire, mais on voit actuellement que l'État ne souhaite pas, par exemple en Belgique, pour le moment, accorder des chambres ou un accueil aux hommes isolés. Pourtant, les hommes isolés constituent la majorité de cette population en migration. Et le gouvernement actuellement a arrêté depuis 2 ans environ d'offrir le minimum de confort requis. Ce droit existe dans la législation, mais n'est pas respecté.
Oh. Donc, pourquoi? Oui. Oui. Il y a une raison?
Oui, pour des raisons d'économie, pour des raisons de budget, aussi pour des raisons de manque de places d'accueil. Donc, le gouvernement, pour le moment, peine à trouver des solutions et se repose alors sur les associations comme la plateforme citoyenne pour assurer un hébergement en attendant une prise en charge par l'État. La plateforme citoyenne, mais aussi le SAMU social ou la Croix-Rouge sont sollicités pour offrir un hébergement. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, il est très difficile d'ouvrir les droits qui sont nécessaires à ces demandeurs d'asile.
Ah oui, ça veut dire les droits à l'accès à des médecins et tout ça?
Ou tout simplement, si les personnes restent trop longtemps chez nous, ben, on multiplie les lieux d'accueil, ce qui augmente le stress et la désorientation. Ouais. Mais aussi, on ne leur permet pas facilement d'obtenir le droit au travail, parce que le droit au travail est basé sur une adresse qui doit être officielle. Ce n'est pas possible chez nous, mais c'est normalement la charge de fait d'asile, d'offrir une adresse et puis de faire valider par le demandeur d'asile une carte de travail qu'on appelle chez nous donc une carte orange, le fameux sésame qui permettrait de travailler. Donc on voit que malheureusement, l'immobilisme dans l'accueil, oui, freine énormément les personnes en situation précaire et allonge le processus, ce qui, bien sûr, rend la situation très difficile au niveau psychologique, tout simplement. Ah oui.
Puis ça ralentit aussi l'intégration, parce que le travail, de cotiser, tout ça, de sentir qu'on fait partie du système, c'est le meilleur moyen pour accueillir une personne aussi dans la société.
Oui, oui, c'est ça. Donc, tout est freiné et c'est un peu dommage parce que la Belgique a quand même des bâtiments inoccupés, des immeubles de bureaux, des hôtels. Donc, il y a des possibilités, mais il faudrait bien sûr vouloir assumer financièrement cette prise en charge.
Oui, ça me paraît compliqué. Après, j'ai l'impression que, par exemple, en France, c'est aussi, c'est pas pareil. C'est les mineurs non accompagnés qui sont un peu abandonnés, on va dire, par l'État. Donc, il y a des dossiers qui ne sont pas traités pendant un an. Donc, c'est des mineurs qui ne vont pas à l'école, pas exactement ce qu'ils font, mais un an sans aller à l'école, sans être intégrés, c'est une catastrophe. Ils sont trop jeunes, on ne sait pas ce qu'ils vivent, ils vivent dans la rue.
Oui, oui, c'est ça. Donc, ici aussi, bien sûr, on connaît la même problématique. Donc, actuellement, le refus de l'État est ciblé pour les hommes isolés, mais dans les demandeurs, il y a aussi des mineurs, donc des MENA, des mineurs non accompagnés et des femmes en situation difficile également. Donc, la priorité va peut-être aux familles, mais actuellement, on sait que même les familles ne trouvent pas de logement. Il y a à nouveau, donc vraiment, il y a à nouveau une crise de l'hébergement à Bruxelles, en tout cas.
Oui. Que pouvons-nous faire
pour... Bien, justement, utiliser le temps d'attente des demandeurs d'asile pour valoriser certaines compétences, pour s'intégrer, pour apprendre peut-être justement le français, pour faire des sorties dans Bruxelles et pour ne pas rester seul dans son coin dans l'hiver. Parce que, bon, bien sûr, pour le moment, c'est l'hiver qui nous inquiète et on multiplie sans prise en charge les risques, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la rue? Il y aurait un petit peu de vandalisme, il y aurait un peu de vol, il y aurait un peu, bien sûr, de débrouillardise. Et la prise en charge rapide permettrait d'éviter tout ça. Donc, c'est notre pari, c'est qu'en ouvrant les portes d'une école, eh bien, on peut favoriser un meilleur accueil. On peut aussi aider à évoluer et à se sentir bien psychologiquement. Ça fait beaucoup de bien.
Puis ça fait partie aussi d'une communauté. Il fait partie, enfin, les personnes savent qu'ils ont une nouvelle famille, des personnes qui sont présentes s'ils ont besoin de parler ou juste une présence.
Oui, bien sûr. Hein. Donc, chacun va rencontrer des problèmes similaires chez les autres. Et ça fait aussi du bien de pouvoir comparer, de pouvoir échanger des bons tuyaux pour pouvoir justement s'orienter, par exemple, dans Bruxelles, trouver des endroits d'accueil, trouver des lieux où on peut s'asseoir, boire un café gratuitement. Et tout ça, c'est positif, bien sûr.
Comment on peut faire pour... aider la plateforme citoyenne. J'imagine qu'il y a plein de manières d'aider, des dons, devenir bénévole. Par exemple, pour devenir bénévole, comment on peut faire ?
Pour devenir bénévole à la plateforme citoyenne, rendez-vous alors sur notre page Facebook, sur notre site aussi. La page Facebook, c'est bellrefugees.be. Et là, vous tombez sur une page qui vous donne toutes sortes d'informations, les news, les activités de la plateforme, aussi des témoignages de bénévoles ou des témoignages de personnes accueillies, des informations justement sur le bénévolat qui est possible à la plateforme. C'est soit, bien sûr, à la plateforme d'une façon générale, dans les hébergements, dans la distribution de biens, mais aussi à l'école. Pour l'école, alors, en particulier, il s'agira d'avoir un petit peu de patience, un petit don pédagogique et participer, bien sûr, d'une façon régulière, accorder 2 heures, disons, à l'enseignement du français. Faire un don, c'est possible aussi, bien sûr, et le numéro de compte de l'ASBL se trouve aussi sur notre page Facebook. Et nous accueillons aussi des stagiaires, nous offrons aussi des emplois. Donc, il faut savoir que nous avions peut-être commencé dans un parc un petit peu humide à forêt ou au milieu de Bruxelles et que maintenant, nous avons peut-être 200 employés parce que les structures d'hébergement se sont multipliées et le mouvement de Bell Refugees s'est aussi étendu vers les provinces de Belgique. Donc, on peut retrouver des provinces et avec un accueil dans le Hainaut, dans le Brabant wallon ou même aussi loin qu'Arlon. Donc, pour tout ça, c'est vraiment très facile de nous contacter où que vous soyez en Belgique.
Il y a des employés maintenant. Félicitations.
Ah, oui. Voilà, il y a donc des employés parce que la plateforme a su obtenir donc des subsides pour l'hébergement. Par contre, l'école est bien le seul service de la plateforme qui ne reçoit ni subsides ni budget. Je dois dire que, bien sûr, elle arrive en seconde ligne. Le premier besoin, c'est l'hébergement, la nourriture, la chaleur. Et c'est pour ça, pour cette raison, que les subsides vont à l'hébergement.
Ah oui.
Oui, c'est ça. Mais dans l'hébergement aussi, dans chaque hôtel, dans chaque structure d'accueil, on a besoin de bénévoles pour venir rencontrer ou venir surveiller ce qu'il se passe, venir parler, venir rencontrer les gens et proposer éventuellement des activités.
Excellent.
Oui, faire un don, c'est possible aussi. Pour l'école, en stipulant sur la communication que ce don est réservé à l'école Maximilien. C'est donc tout à fait possible, mais on peut aussi participer avec des toutes petites collectes. Allez, c'est bientôt, je ne sais pas, à la Saint-Nicolas, c'est bientôt Noël, pourquoi pas faire des collectes de bics, de cahiers. Nous allons récupérer tout ça avec grand plaisir, ce sera vite distribué, vite utilisé dans l'école.
Donc, il y a aussi des dons matériels, hein, donc des livres aussi ou,
Des livres, non, on n'a pas vraiment la possibilité de les stocker. Mais non, ça, c'est déjà un peu plus difficile parce que notre public n'a pas la possibilité de lire, n'est pas en mesure de lire des romans ou des magazines. Par contre, ils seront tous très contents s'ils ont quelque chose comme un cahier, un sac à dos, un bic, du matériel scolaire et si tout ça leur permet de venir quotidiennement au cours.
Magnifique, tellement mignon en plus.
C'est vrai, c'est important. En fait, il ne faut pas grand-chose. Hein. Une feuille de papier, un bic et c'est parti.
Et c'est parti, on peut faire des miracles et on aide des personnes à s'intégrer dans un nouveau pays. Parce que, faut aussi rappeler que personne ne quitte son pays volontairement, ne fuit son pays, enfin, personne ne quitte le paradis en fait. Donc,
c'est sûr.
Si ces personnes ont décidé de traverser des océans, des forêts, des montagnes pour venir en Belgique sans papier et tout ça, c'est qu'il y a bien une raison. C'est pas juste pour squatter le système de santé, certaines personnes pourront dire.
Non, on est loin de tout ça. D'ailleurs, ils ne connaissent pas d'ailleurs les arcanes de nos systèmes de soins ou d'autres d'ailleurs. Les oui. administrations, c'est toujours un problème pour eux.
Mais ça, déjà, c'est un problème pour les natifs. Donc, moi, j'ai les deux nationalités. J'ai la nationalité belge et j'ai la nationalité française. Et ah, pour voilà. tout te dire, la belge est quand même beaucoup plus simple que la française. Donc, la française, c'est vraiment... Parfois, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi c'est si compliqué, même pour moi, francophone native, je pense aux personnes qui apprennent le français, peu importe d'où ils viennent, leur niveau d'éducation, je me dis, mais c'est juste la définition de l'enfer sur Terre, la déclaration d'impôts et tout ça, horrible, vraiment.
Oui, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très compliqué et ça nécessite une aide à toutes les étapes, je vais dire. Donc, en fait, quand les gens arrivent chez nous, ensuite, donc, il y a une attente, un grand stress et l'attente de la réponse à la demande d'asile. Soit la réponse sera positive et c'est déjà un très gros soulagement, soit elle sera négative et là, beaucoup d'autres problèmes vont commencer. Mais même avec une réponse positive, l'installation n'est pas facile. Les premiers pas dans la vie active ou quotidienne du Belge qui a reçu une réponse positive ne sont pas faciles. Donc, il faut trouver, bien sûr, on a des droits, mais il faut trouver un logement, il faut trouver une école, il faut trouver un job. Comment faire tout ça, c'est énormément d'interrogations.
C'est une très, très longue aventure, hein, de toute façon, oui. l'intégration. Déjà, la langue, il faut 2 ans pour parler français couramment, juste la langue.
C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne estimation. 2 ans pour bien la parler et puis commencer quelque chose de plus spécifique, une formation professionnelle, reprendre des cours à l'université ou continuer un parcours qui a été entamé à l'étranger. Et oui, bien sûr, il faut du vocabulaire pour ça.
Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, les liens pour faire des dons, pour contacter la plateforme seront de toute façon dans les notes de cet épisode. Nathalie, avant de te laisser partir, je pose toujours une question à mes invités. Et cette question, c'est si tu devais donner un seul conseil à une personne qui veut apprendre le français ou qui veut améliorer son français, est-ce que tu pourrais en donner un ?
Oui, bien sûr. Frappez à la porte de l'école, entrez, on vous accueille, installez-vous, on va faire ça ensemble. Parce que la langue, c'est après tout un moyen de communication et je crois que vraiment, il faut être ensemble, il faut être au minimum 2 pour pouvoir y arriver.
Magnifique. Nathalie, merci beaucoup d'être venue. On a réussi. C'est bon, c'est fait.
Je te remercie en tout cas.
Merci, salut, salut.
Bon après-midi. Au revoir à tout le monde.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt.